Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Au ras des pâquerettes.
Bonjour à toutes et tous. Aura des pâquerettes vous emmène dans la Drôme, où Radio BLV vous propose de fêter les 25 ans de la comédie itinérante.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Radio BLV depuis la Comédie de Valence, Centre Dramatique National Drôme-Ardèche. Une émission spéciale à l'occasion de l'anniversaire des 25 ans de la comédie itinérante. Si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre viendra à toi. La comédie itinérante, c'est le théâtre qui sort de ses espaces habituels pour aller investir d'autres lieux, des lieux qui ne sont pas conçus au départ pour accueillir du spectacle vivant, et qui le deviennent le temps d'une représentation. Des salles de fêtes, des foyers ruraux, des centres sociaux, des MJC, des maisons pour tous, des établissements de santé ou encore des établissements pénitentiaires, et aussi dans des quartiers éloignés géographiquement du théâtre. La comédie itinérante, c'est un dispositif qui vient renouer avec une tradition ancienne du théâtre, le théâtre forain, des tréteaux et des carrioles, des troupes itinérantes, en proposant des formes de théâtre les plus exigeantes et les plus passionnantes. Cette saison théâtrale, ce sont bien 5 spectacles avec 60 représentations qui vont sillonner de octobre à avril des communes entre 100 et 3000 habitants, jusqu'à 2h30 de route depuis Valence. En 25 ans, la comédie itinérante a traversé 167 communes de Drôme et d'Ardèche. Chaque année, c'est plus de 60 représentations qui sillonnent ces territoires. Un dispositif qui est devenu un modèle partout en France, aussi bien pour des théâtres que pour des collectivités territoriales. C'est ce qu'on appelle la décentralisation culturelle. Une politique venue d'un souci d'élargir le public du théâtre au-delà des grandes villes et au-delà des classes sociales aisées qui se sentaient le plus légitimes de consommer de théâtre. Une politique qui peut être mise à mal aujourd'hui avec les injonctions qui pèsent sur le secteur culturel, des injonctions à participer à l'effort budgétaire de l'État. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion, tout au long de cette émission et des 25 ans de la comédie itinérante, de se familiariser et de rappeler l'impact positif de la culture en général et du théâtre en particulier sur la société, sur la démocratie.
Aura des pâquerettes.
Pour inaugurer ce plateau des 25 ans de la comédie itinérante, nous sommes avec Marc Lenné, directeur de la Comédie de Valence. Bonjour Marc Lenné.
Bonjour.
Et nous sommes avec Philippe Delegue, fondateur de la Comédie de Valence et cofondateur avec Christophe Perton de la Comédie itinérante. Bonjour Philippe.
Bonjour à vous.
Marc, donc vous êtes auteur, metteur en scène et scénographe et directeur de la comédie depuis 2020. Qu'est-ce qui oriente les choix de programmation sur le dispositif de théâtre itinérant qu'est la comédie itinérante ?
Je vais essayer d'être le plus synthétique possible, mais pour parler des choix que j'ai pu faire, je suis obligé de rendre hommage à ceux qu'ont fait mes prédécesseurs. Et depuis toujours, l'itinérance à Valence était animée par la volonté de faire découvrir le théâtre effectivement le plus contemporain, le plus exigeant, la littérature dramatique vivante. Et ça a fondé d'ailleurs mon propre geste de mise en scène, puisque mon premier spectacle, je l'ai signé en comédie itinérante. Et à mon arrivée à la comédie, j'ai eu envie, aussi en cohérence avec mon propre travail d'artiste, d'élargir les propositions aux autres champs disciplinaires et, on va dire, aux formes plus hybrides, même si ça existait déjà pour une part à l'époque, je l'ai disons plus systématisé. Et donc aujourd'hui, en comédie itinérante, il y a des formes qui embrassent encore une fois toutes les disciplines du spectacle vivant et aussi des formes qui se questionnent sur comment déployer la pensée aussi dans les lieux de représentation. Voilà, pour le dire très vite. Mais donc, il y a des spectacles musicaux, des spectacles plus chorégraphiques, des spectacles de théâtre aussi, évidemment.
Philippe, depuis le théâtre de parole de Christophe Perton, qui sillonnait l'Ardèche, et à la suite, donc, la comédie itinérante, quel était le projet au départ et comment a-t-il évolué ?
Peut-être que l'idée qui a présidé à la, l'idée principale, en tout cas, qui a présidé à la naissance de la comédie itinérante, c'était celui d'une pérennité, d'une durée. C'est pour ça que quand on a inventé ce dispositif, il avait autant d'importance que la création, que la programmation, que la constitution d'une troupe permanente ou que l'action culturelle plus générale sur un territoire. Pour nous, c'était une mission de la Comédie de Valence à inscrire pleinement au fronton de la Comédie de Valence. Ce n'était pas une opportunité, ce n'était pas non plus un effet d'aubaine, ça ne nous était pas demandé par les tutelles du tout. Ça n'était pas dans notre cahier des charges, si ce n'est d'une manière très floue, le fait de devoir éventuellement s'adresser à un territoire, mais pas de cette manière aussi précise et aussi massive, surtout. Et donc, notre projet, il était de l'inscrire dans une durée, dans une pérennité. C'était pour nous fondamental, cette question-là, et elle est fondamentale. Les 25 ans viennent d'ailleurs un peu justifier cette façon de vouloir ancrer cette comédie itinérante pour longtemps. Mais enfin, si on pouvait espérer qu'elle dure 25 ans, en tout cas, on ne l'attendait pas forcément, c'est vraiment formidable. Pourquoi la pérennité? Pourquoi la durée? Parce que c'est ce qui permet d'établir un lien de familiarité, presque de fraternité, avec des publics. Et le théâtre est un art extrêmement exigeant, très très difficile, parce que ce sont des vivants qui rencontrent des vivants. Et si la rencontre, notamment la première rencontre, est ratée, on en veut terriblement au théâtre, en fait, ce qu'on ne fait pas du tout au cinéma. On peut voir 10 navets de suite, on ne va pas accuser le cinéma parce qu'on ne peut pas accuser un écran. Mais en revanche, le théâtre, si la rencontre est ratée, on en veut presque personnellement aux gens qui nous ont fait subir ça et qui sont à 5 mètres de nous. Et du coup, cette familiarité, elle est fondamentale parce qu'en fait, au lieu de proposer des spectacles, on proposait des rendez-vous. On disait, nous sommes la Comédie de Valence, nous avons une troupe permanente, c'est des gens que vous allez retrouver d'un spectacle sur l'autre. Et vous vous habituerez à nous et on s'habituera à vous. Et vous allez non plus venir voir des spectacles, mais vous allez venir voir, assister à un rendez-vous qu'on vous propose. Et on se rencontre, on se connaît de mieux en mieux, on voit des acteurs d'un spectacle sur l'autre aussi. Quand il y avait en tout cas la troupe permanente, c'était aussi un des intérêts de cette troupe, c'était de pouvoir retrouver des visages. Et cette familiarité, elle facilite la rencontre, en fait, entre un public et une œuvre dans le théâtre. Voilà, c'était ça. Notre volonté, c'était que ça dure et que ça devienne une familiarité entre nous.
C'est toujours aujourd'hui un projet qui est inscrit au sein même du théâtre.
Oui, il l'a fondé et il en fait au fond le cœur battant. C'est la raison pour laquelle aussi, quand moi je suis arrivé à la direction de la Comédie de Valence, le premier spectacle que j'ai tenu à signer, c'était dans le cadre de ce dispositif de décentralisation. C'était un spectacle qui s'appelait Nos paysages mineurs, qui était un spectacle dans lequel je ne me débarrassais d'aucune de mes obsessions d'artiste. Il y avait des caméras motorisées, il y avait, comme ça, les enjeux technologiques étaient très présents. Et ce qui est beau, c'est que de ce spectacle, finalement, est née une trilogie de spectacles qui se conclut avec cette chambre de l'écrivain que je présente ici, ce soir. Mais tout cet enjeu-là m'anime toujours autant. Mais.
Oui, vous parlez de premier geste théâtral, le fait d'amener une pièce itinérante. Et donc, par rapport à l'adaptation, parce que les projets, les pièces de théâtre qui sont choisies sont déjà des pièces qui sont très mobiles au départ.
Pas toujours. Peut-être tu en parleras mieux que moi, mais il y a toujours eu cette idée de pouvoir montrer tous les spectacles. Et donc, il y a des spectacles qui ont été créés dans des salles, on va dire, traditionnelles, équipées avec des grilles techniques, notamment extrêmement comme ça, lourds. Et on fait un travail d'adaptation pour que ces mêmes spectacles, sans rien perdre de leur qualité, puissent jouer partout, en Drôme et en Ardèche, dans les fameux lieux non dédiés que vous avez pu décrire. Et je pense que c'est une volonté de Philippe et de Christophe, effectivement, à l'origine, accompagné par Marco, qui était le régisseur de la Comédie itinérante, de concevoir un outil qui permettait ça.
Oui, enfin, on voulait essayer de maintenir un niveau d'exigence. C'est pas parce qu'on va jouer dans des communes qui sont parfois complètement dépourvues d'infrastructures, en fait, qui permettent de faire du théâtre. On se donnait les moyens d'y arriver grâce au soutien des conseils généraux de la Drôme et de l'Ardèche, quand même. Je crois que c'est la première fois, d'ailleurs, que l'Ardèche aidait la Drôme. On connaît l'animosité qui peut exister, qui est plus ou moins mythologique, mais qui est aussi un petit peu réelle. Enfin, en tout cas, qui est peut-être sans doute basée sur un fond de réalité. Mais en tout cas, c'était la première fois que deux départements, si proches et en même temps parfois si lointains, s'associaient pour monter le niveau d'exigence, parce que c'était très très exigeant au début, parce qu'on devait mettre au noir toutes les salles dans lesquelles on passait très très peu dans des salles de théâtre, donc on passait surtout dans des salles de foyers ruraux, des salles polyvalentes, des choses comme ça, où il n'y avait même pas de mise au noir
possible.
Pour
obtenir le noir, oui.
Oui, juste pour obtenir le noir, c'est un travail colossal, en fait. Et les premières équipes techniques ont fini sur les genoux, hein, parce qu'on faisait parfois une représentation d'un jour sur l'autre, et il fallait mettre au noir la salle, il fallait arriver, parfois même monter les gradins ou installer les chaises. Mais en tout cas, oui, pour revenir à ce que disait Marc, il n'y a jamais eu de défaut d'exigence. Et je me souviens juste d'une anecdote, c'est que au bout de 2-3 ans de comédie itinérante, je me souviens qu'on avait choisi un spectacle qui était une pièce de Labiche, je crois que ça s'appelait « Deux dans une armoire » ou un truc comme ça, qui était monté par Agathe Alexis, un très bon spectacle qu'on a proposé à nos villages. Et en fait, je me souviens de réflexions de nos relais qui nous disaient « Mais pourquoi, en fait, vous voulez nous faire voir un Labiche tout d'un coup ?» pourquoi, enfin, comme si tout d'un coup on cédait à une espèce de démagogie et qu'on leur proposait un peu un spectacle, bon voilà, bon pour les campagnes, quoi, un truc où on allait un peu rigoler, ploum ploum. Alors qu'en fait, non, on trouvait simplement que c'était un bon spectacle, qu'il se trouve que c'était la biche, mais on a adoré cette réaction parce qu'on s'est dit, mais c'est merveilleux, quoi. Le niveau d'exigence est monté de leur côté à tel point qu'ils ont envie de voir Rodrigo Garcia, Jean-Luc Lagarce, et que tout d'un coup, la biche, c'est comme si on cédait à une forme de facilité. Et donc, c'était une récompense formidable, ça.
C'est très important, ce que dit Philippe. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à imaginer que la décentralisation, c'est un choix vertical. C'est des artistes et des élus qui décident, comme ça, de proposer une œuvre.
Ce qui est bon pour le peuple, province.
Et en réalité, non, il y a un désir. Il y a une réciprocité du désir. Il y a des attentes très fortes. Et si des dispositifs comme cela peuvent exister, c'est vraiment parce que toutes ces communautés de communes, ces associations, le désirent. Et pour le coup, Philippe parlait de la folie de monter ces petits théâtres en une journée. Il y avait des collaborations aussi de la part des relais associatifs qui aidaient, qui me donnaient la main à l'équipe technique. Et ça, c'est un truc assez fou de se dire que comme ça, il y a cette co-construction-là. Ce mot co-construction, il prend vraiment du sens. Aujourd'hui, il est dans toutes les bouches, évidemment, mais pour le coup, il y a 25 ans, c'était expérimental.
Oui, ça a participé à faire monter la demande d'offres culturelles et d'une certaine exigence dans l'offre culturelle aussi.
Oui, et puis c'est très favorisant et fécondant et fertilisant pour un territoire. En fait, je me souviens qu'au début, il y avait des compagnies du territoire qui nous disaient, mais là, vous nous prenez le marché, quoi. Vous allez prendre notre place, on va plus pouvoir jouer. Puisque vous venez, c'est massif, vous venez trois fois dans des villages, et nous, on va devenir quoi, etc. Et je leur répondais souvent, mais non, parce que plus il y a de culture, plus il y a de culture, plus il y a d'art, plus il y a d'art, plus il y a d'intelligence, plus il y a d'intelligence, tout le monde en profitera. Et d'ailleurs, à tel point, on discutait avec Alain Chambard tout à l'heure à table, et qui est un des relais de la comédie itinérante sur Bordeaux, il nous racontait à quel point lui, ça l'a structuré, en fait, ça l'a totalement structuré. Et ils ont pu, de leur côté, à nouveau, et même en dehors de la comédie itinérante, accueillir d'autres spectacles. Donc, en fait, c'est bien la preuve que c'est pas une invasion du territoire par une institution. Non, c'est une institution qui a des moyens, mais faisant ce qu'elle doit faire, elle permet aussi l'éclosion de plein d'autres aventures et de plein d'autres artistes. C'est pas en faisant moins que certains pourront faire plus, mais il faut tous faire plus.
Oui, ça participe, enfin ça donne un rôle moteur et ça entraîne finalement d'autres dynamiques sur place derrière.
Et qui ces dynamiques là, elles ont généré d'autres aussi modalités de la rencontre dont tu parlais, parce qu'effectivement ce qui a fondé la comédie itinérante, c'est d'abord la rencontre avec une œuvre et comment cette rencontre peut nous transformer. Ça, c'est l'expérience que chaque spectateur peut connaître d'ailleurs dans tous les théâtres. Quand moi je suis arrivé, il y avait un vrai désir de la part de tous ces relais associatifs, et bien que la présence artistique puisse s'enraciner plus dans le territoire, en tout cas que ces artistes soient là plus longtemps, au-delà même des temps de représentation. Et donc on a donc inventé et déployé des dispositifs qui répondent à ce désir-là désormais. Voilà.
Ça s'est même fait parfois un petit peu comme des chemins de traverse. On évoquait encore tout à l'heure à Bordeaux le fait qu'entre deux spectacles qui devaient se jouer à Bordeaux et dans les environs, eh bien, un des acteurs, Yves Barbeau, pour ne pas le nommer, a organisé comme ça au pied levé des ateliers d'écriture ou des ateliers de lecture avec les gens du territoire, en leur disant ben, si demain vous êtes libre, venez, on fait une journée de stage d'écriture.
Et ce mouvement-là, aujourd'hui, il est, on a conçu et systématisé des dispositifs qui le permettent.
On va en parler tout à l'heure avec Julie Pradera sur notamment les Sendals, les ovnis. Eh bien, merci infiniment, Marc Lenné. Donc, je rappelle que vous êtes actuel directeur de la Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme Ardèche. Et merci, Philippe Delègue, qui a fondé la Comédie de Valence en 97 et a été son directeur plusieurs années.
Merci à vous.
Nous allons faire une petite pause musicale avec An American Prayer de Jim Morrison. Do you
you know the warm progress under the stars? Do you know we exist? Have you forgotten the keys to the kingdom? Have you been born yet, and are you alive? Let's reinvent the gods, all the myths of the ages. Celebrate symbols from deep elder forests. Have you forgotten the lessons of the ancient war? We need great golden copulations. The fathers are cackling in trees of the forest. Our mother is dead in the sea. You know we are being led to slaughters by placid admirals, and that fat, slow generals are getting obscene on young blood. You know we are ruled by TV. The moon is a dry blood beast. Guerrilla bands are rolling numbers in the next block of green vine, amassing for warfare on innocent herdsmen who are just dying. Oh, great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives. Moths and atheists are doubly divine and dying. We live, we die, and death not ends it. Journey we more into the nightmare, cling to life, our passion flower, cling to cunts and cocks of despair. We got our final vision by clap. Columbus's groin got filled with green death. I touched her thigh and death smiled. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. Barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest to dance and save us with the divine mockery of words, music and flame's temperament. True kings, murderers are allowed to roam free. A thousand magicians arise in the land. Where are the feasts we were promised? Where is the wine, the new wine, dying on the vine?
Vous êtes toujours sur Radio BLV 93.6, une émission spéciale en direct à l'occasion des 25 ans de la Comédie itinérante, le dispositif donc de la Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme Ardèche. Au théâtre, on peut avoir de l'infiniment grand avec des productions très lourdes, de grosses contraintes techniques et financières qui rendent difficile la circulation des spectacles. Et puis, on peut avoir de l'infiniment petit qui tient dans un mouchoir de poche et qui s'adresse à tous les publics. Des petites formes qui, en les présentant à droite à gauche sur tout le territoire, participent à mettre en appétit le public. On en parlait tout à l'heure avec Marc et Philippe. Donc, des petites formes qui permettent parfois aussi de résister à une surenchère d'utilisation des technologies qui fait barrière à une libre circulation des spectacles. Alors, la comédie itinérante, ce sont des représentations théâtrales dans des espaces très différents, des espaces qui peuvent être parfois peu équipés pour le spectacle vivant au départ, avec des jauges de public réduites. Et c'est aux équipes techniques de la comédie itinérante de reconfigurer ces espaces pour qu'ils puissent accueillir le spectacle. On parlait tout à l'heure de la difficulté, rien que pour obtenir du noir dans des salles. J'accueille au plateau Marc Coufignal. Tu es régisseur général à la Comédie de Valence et tu gères aussi la régie sur la comédie itinérante depuis 2003. Bonjour.
Bonjour.
Quelles peuvent être les contraintes les plus fréquentes et le travail d'adaptation des équipes techniques de la comédie itinérante ?
Elles sont multiples. Ça dépend. C'est déjà de faire. La plus grosse problématique, c'est de respecter en fait le data-date. Ça, c'est très compliqué parce que ça demande une organisation au niveau de la structuration du projet, notamment quand on est sur une création, à expliquer au metteur en scène que le spectacle il va se monter et se démonter tous les jours. Et du coup qu'il faut qu'on rentre dans les temps impartis, tout en respectant la convention collective, les droits du travail. Donc c'est pour ça qu'on fait, on ne peut faire que 4 représentations par semaine, mais c'est déjà des journées pour les côtés techniciens qui sont très remplies, parce qu'on arrive à 10h du matin dans les salles, des salles qui sont entièrement vides, salles des fêtes, hein, comme tout le monde connaît de village. Et simplement, nous, on demande un aspect, quelque chose d'une salle complètement vide. Et puis du chauffage, parce que ça, c'est important. Et des chaises. Voilà. Et nous, on arrive avec tout le reste. C'est-à-dire, soit on arrive avec des dispositifs qui sont plus ce qu'on avait dit, des petites formes, où là, on a juste 2 camions utilitaires qui sont accompagnés par des régisseurs, soit avec. Si on a le gradin, si on a un petit grill technique qu'on appelle la cabane, ben là, du coup, on promène avec un poids lourd. Mais du coup, l'idée, c'est ça. Mais vraiment, l'idée, c'est de la contrainte, c'est vraiment de respecter déjà et le temps de trajet entre les lieux et de pouvoir respecter ce temps de travail qui définit en fait tout le projet artistique. Parce que du coup, on ne peut pas se permettre. Alors du coup, il faut expliquer effectivement aux metteurs en scène et aux scénographes que tout va jouer sur du 6 mètres par 6 mètres, 6 mètres d'ouverture par 6 mètres de profondeur, que la hauteur de plafond, c'est 2,80 m. Donc ils nous regardent tous avec des gros yeux quand on leur explique ça au départ. Et puis après, en fait, à chaque fois, ça fonctionne.
Oui, ça veut dire faire des réajustements sur place. Alors avant d'arriver sur place avec un spectacle, il peut y avoir en amont un travail de sensibilisation au spectacle vivant et à l'accueil de spectacle. Il faut parfois composer avec une demande de spectacle de divertissement et de spectacle jeune public, expliquer, convaincre, multiplier les contacts avec les élus municipaux, les mairies, les associations d'animation locales. Intéresser les interlocuteurs, construire un réseau de partenaires. Julie Pradera, tu nous rejoins au plateau et tu es directrice adjointe des relations publiques à la Comédie de Valence. Tu es en lien avec les communes de Valence Romans Aglo pour les itinérances et avec les communes et communautés de communes en Drôme et en Ardèche, hors aglo, pour les projets SENDA. Donc, pour le petit acronyme, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est les studios d'écriture nomades en Drôme et en Ardèche. Et les ovnis, les objets valentinois non identifiés. Tu travailles avec Lucie Scheffner, qui est responsable de la comédie itinérante. Bonjour Julie.
Bonjour, oui, j'allais dire, c'est un travail partagé, hein, puisqu'il est important. Donc j'allais effectivement citer ma collègue Lucie Scheffner. Oui, bah, c'est vrai que c'est une formidable aventure, puisque on travaille sur ces 2 départements depuis 25 ans, en tout cas dans le cadre de la comédie itinérante, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais également, comme tu le disais, à travers différents dispositifs, les SENDA, et les ovnis. Donc ça, ce sont vraiment des dispositifs qui ont été proposés à l'arrivée de Marc Lenné, notre directeur, et Claire Roussary. Donc c'est vrai que quand on va travailler autour de l'accueil d'un spectacle vivant, comme tu le disais, on travaille avec différents partenaires sur un territoire. Et puis on va vraiment être en partenariat dans le sens où les partenaires, les associations, les mairies, les communautés de communes, les différentes structures avec lesquelles on travaille, ils vont être cette force vive, ce relais sur le territoire. Et ils vont vraiment nous accompagner aussi dans la mobilisation du public. Donc ça, c'est vraiment un partenariat qui est très important, puisqu'on est vraiment, on n'arrive pas comme ça. On est en lien avec des partenaires pour la plupart historiques. Et c'est vrai que les SENDA ou les OVNI, on a pu, avec ces dispositifs, proposer des créations, en tout cas pour les OVNI, des créations participatives. Donc c'est une façon aussi de mobiliser le public et de se dire, vous allez participer à une aventure artistique avec un metteur en scène, avec une autrice, et puis vous allez comme ça, au fur et à mesure, arriver à faire partie d'une création. Et comme l'expliquait Marco par rapport à la question des salles aussi qui nous accueillent, là c'est vrai qu'avec ces dispositifs, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut aller partout, aussi en lien avec une bibliothèque, en lien avec une toute petite salle, un tiers-lieu, un café associatif. Et donc c'est aussi intéressant d'emmener des artistes et des propositions en plus de ce travail de comédie itinérante via les outils techniques notamment.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme barrière ou comme levier quand on souhaite faire circuler une pièce de théâtre dans ces endroits où il n'y a pas forcément de salle de théâtre avec une programmation à l'année?
Tout ça, en fait, nous, on le réfléchit en amont quand on programme la saison. En fait, on prend les projets un par un qui nous sont proposés que Claire ou Marc ont vu et qui nous disent on va prendre ces spectacles-là en comédie itinérante. Donc, du coup, moi, je regarde les fiches techniques. Et après, on connaît toutes les salles, en fait. Moi, je connais toutes les salles. Donc, du coup, on fait un vrai travail avec Julie et Lucie pour préparer quel spectacle peut jouer dans quel lieu. En fait, c'est vraiment ça qui détermine, parce que toutes les salles ne sont pas de la même dimension, ne peuvent pas accueillir, il y en a qui peuvent accueillir le poids lourd avec le gradin, il y en a d'autres pas du tout. Donc nous, on réadapte à chaque fois. Et puis après, évidemment, la notion de géographie, parce que dans tous les cas, vu qu'encore une fois, c'est du date-à-date, il faut que les déplacements journaliers soient pas trop importants. Voilà, on ne peut pas leur faire faire 2 heures de route, autrement les journées seraient trop compliquées et surtout, on n'arriverait pas à faire ce genre de choses. Mais toute cette alchimie, en fait, ça se crée au mois de mai-juin, là, quand c'est un Tetris qui est des fois très avec des allers-retours permanents, qui nous fait beaucoup rire entre nous trois, voilà, mais pas tout le temps. Mais...
Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Associé au spectacle, il y a parfois en amont, parfois ou toujours, vous allez me dire, des résidences artistiques auprès des habitants de la commune.
Oui, alors j'ai parlé un petit peu du dispositif des OVNI, ces projets de création participatif. Et puis on mène aussi, depuis l'arrivée de Marc Éclair, un projet de résidence d'auteur qui s'appelle donc les SENDA, Studio d'écriture nomade Drôme et Ardèche, en Drôme et en Ardèche. Et donc là, la comédie lance une invitation poétique, des auteurs, autrices y répondent. Et puis voilà, on se réunit, on est un jury. Et une fois par an, un auteur part en résidence sur un territoire pour 2 mois. Le premier mois va être consacré vraiment à la rencontre avec les habitants et les habitantes sur un secteur défini. Et le deuxième mois, ce temps est consacré à l'écriture. Et à l'issue de ces 2 mois, un texte est écrit, qui est donné à entendre par des artistes, des comédiens au plateau, avec l'auteur-autrice. Et ensuite, il y a une édition qui est proposée via les éditions de l'appartement. Il y a une micro-édition du texte. Donc c'est un projet aussi très beau qui nous permet de continuer de travailler avec les communautés de communes, des associations, des mairies, pour organiser ces résidences, sachant que, là encore, voilà, l'auteur qui est sur le territoire, il va pouvoir travailler avec un EHPAD, donc mener des ateliers d'écriture et mener aussi des petits moments de lecture. Donc là, pour le coup, sans technique, on a vraiment l'auteur, autrice qui est là. Il va s'installer dans la salle de la MJC, par exemple, et puis il va proposer des lectures de textes. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on a des choses très, très légères avec un ou deux artistes. Et puis, comme dit Marco, le dispositif avec la cabane, notamment, et le gradin.
Est-ce que ces résidences artistiques peuvent aussi être l'occasion pour les participants et participantes de toucher un petit peu de sensibiliser aux aspects techniques et à la régie de spectacle ?
Évidemment, parce que ils participent déjà au montage. Enfin voilà, quand les gens qui nous accueillent sur place, parce qu'on a toujours des relais sur place qui sont des personnes très très importantes et qu'on tient à remercier évidemment tous les jours, parce que sans elles, la comédie théâtre n'existerait pas. Donc du coup, effectivement, c'est des gens qui sont sensibilisés à chaque fois. Enfin, nous, on a des partenariats qui se sont installés avec des personnes depuis de longues, longues années maintenant. Et du coup, en fait, effectivement, ils ont appris ce que c'était un pendrillon, ce que c'était de faire une cage de scène, de faire la lumière, ça représente quoi, comment, pourquoi. Enfin, même eux, ça les aide, en fait, dans leur peut-être animation qu'ils font tous les jours.
Oui, voilà. Oui. Ouais, c'est vrai, je me revois aussi venir à 11h avec une classe, puisqu'on profite aussi de nos présences pour travailler avec les écoles et je sur des propositions jeunes publics. Il m'arrive de venir embêter gentiment, bien sûr, l'équipe technique qui est en plein montage et d'arriver avec 25 élèves et de dire « Bon, alors, parlez-nous du son, de la lumière, comment ça se passe ?» Et c'est vrai que ça crée des endroits de découverte sur tous les métiers liés au spectacle vivant. Ça, c'est chouette.
Merci, Julie.
Avec plaisir.
Merci, Marc.
Merci à vous.
Je rappelle Julie Pradera, donc directrice adjointe des relations publiques à la Comédie de Valence, et Marc Confignal, régisseur général à la Comédie de Valence.
Je me taille des costards, je me donne des noms d'oiseaux, sous l'empire de l'état vivant, moi-même sur le dos. Un jour, je serai de nouveau à genoux. J'aurai soif d'amour, soir. Ce soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude. Faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience, butiner les fleurs du mal, avaler des sabres, des couleuvres. J'ai eu des périodes, mais c'est la dernière chance des dieux. Un jour, je serai de nouveau à genoux. J'aurai soif d'amour, mais ce soir, ce soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude. Faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience. C'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude. Faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience.
C'était Bertrand Belin avec La Béatitude. Vous écoutez Aura des Pâquerettes, l'émission des radios de la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes à la Comédie de Valence, dans la Drôme, où Radio BLV fêtait les 25 ans de la comédie itinérante.
Eh bien, je vais accueillir autour du plateau Charlotte Rosé-Garcia, qui est chargée de mission culture à la communauté de communes Valérieux en Ardèche, ainsi que Jean-Jacques Bruschini, vous me direz comment ça se prononce, maire de Huppy, commune qui accueille la comédie itinérante depuis très longtemps. Bonjour à vous. Et Anne, et donc Anne Longle, habitante de Vinsobres, spectatrice fidèle de la comédie itinérante. On va commencer par Charlotte. Donc, la communauté de communes de Valérieux compte parmi les partenaires du dispositif La Comédie itinérante depuis plus de 10 ans.
Depuis moult années. En fait, moi, ça fait 11 ans que j'accueille la comédie, mais avant même l'existence de cette communauté de communes qui est issue de fusion de trois autres, depuis, je crois, 2002-2003, autour du bassin de Saint-Pierre-Ville à Lombardèche, il y avait déjà la comédie qui venait sur notre territoire. Donc, ouais, il y a un vrai historique.
Et alors, justement, pour comprendre un petit peu comment ça s'articule, comment ça s'organise le partenariat avec la comédie itinérante avant et pendant la saison ?
Alors avant, moi, je travaille donc avec Lucie Scheffner pour, en fonction de la taille des spectacles qui nous sont proposés. Donc il y a 3 à 4 spectacles par an qui sont proposés en comédie itinérante. Moi, je les prends tous dans ma saison culturelle itinérante. On a 29 communes sur Valérieux et donc je fais en sorte que les spectacles puissent tourner dans toutes les communes. Enfin voilà, chaque année, on change de commune. Donc, en effet, Marco commence à connaître à peu près toutes nos salles de spectacle. Et ce qui est un vrai défi, parce qu'il y a des salles, je dis salles de spectacle qui n'en sont pas du tout, hein, des salles des fêtes couleur papier toilette rose. Enfin, on part de très très loin quand même quand ils viennent installer leur pendrillon, etc. Et j'essaye de varier les communes, de voir. Nous, on a aussi des fortes contraintes météorologiques. On a des communes qui sont à 1300 mètres. Il neige une partie de l'année. Donc, il faut vraiment prendre en compte ça parce qu'ils arrivent avec. Un camion. D'ailleurs, ils prennent souvent un plus petit camion pour venir chez nous. Je pense à le Bon d'Ardèche où il y a un tout petit pont en pierre à traverser, où même avec une Twingo, on a peur. Et eux, ils doivent quand même le traverser pour amener le matériel.
C'est pas que les contraintes des salles elles-mêmes, c'est les contraintes d'accès aussi sur la voirie publique.
Tout à fait. Et puis après, l'idée aussi, c'est de varier les esthétiques, parce que parfois, ce sont des spectacles à consonance plutôt musicale, parfois plutôt chorégraphique, parfois plutôt théâtrale. Et donc, on essaye aussi de varier dans les communes ce qu'on peut présenter.
Jean-Jacques, tu es maire de Huppy. Et donc, qu'est-ce que le dispositif de la comédie itinérante vous a permis en tant que commune ?
Alors, ça fait déjà un peu plus de 20 ans qu'on travaillait en partenariat avec la comédie. À l'époque, j'étais simple conseiller et on avait une personne qui s'était spécialisée dans la culture. Et quand on a fait mon premier mandat en tant que maire avec Isabelle Savio, que je veux mentionner ici parce qu'elle travaille énormément ce projet de partenariat, nous avons décidé de créer une régie spectacle. Et ça nous a permis d'agglomérer beaucoup de bénévoles, et ce qui nous permet aussi d'accueillir royalement à la fois les techniciens avant le spectacle et après le spectacle les comédiens, puisque nous préparons aussi les repas et que généralement les repas sont fort appréciés à Huppy. Je vous dis ça comme ça.
Non, c'est vrai que les techniciens pourraient faire un petit guide, mettre 1, 2, 3 épis, enfin 1, 2, 3 châtaignes ou 1, 2, 3 picots, non. Mais parce que, alors des fois, je pense qu'ils en ont ras-le-bol de manger de la caillette et de la crique sur les tournées, donc on essaye de varier. Et puis, c'est toujours.
Sobre, ils mangent de la truffe.
On n'a pas tous les mêmes moyens. Attention, concurrence.
Non, mais c'est aussi rigolo parce que quand on accueille de plus en plus, il y a des régimes aussi alimentaires particuliers, sans lactose, sans gluten, etc. Et au début, il y a 10 ans, j'appelais les restaurateurs pour dire vous pouvez me préparer. Et il y avait un gros blanc, quoi. Et en fait, ça aussi.
C'est une sensibilisation aussi des restaurateurs dans tout ça.
Ça forme aussi, tout à fait, à pouvoir proposer des plats végés. Donc c'est tout un écosystème autour de l'accueil de spectacle avec la comédie.
À Huppy, c'est nous qui préparons les repas.
Nous, on fait travailler le commerce.
Qu'est-ce qui pourrait pousser une mairie à s'engager sur ce dispositif ? Et de quelle manière s'engage-t-on ?
Eh bien, il faut déjà être convaincu que la culture, ça peut apporter beaucoup. Et donc, après, je ne sais pas, c'est vrai que nous, on a fait un peu boule de neige avec les communes qui sont autour, puisque quand on a commencé Huppy, après Montméran, il y a eu la Baume Cornillane qui est rentrée dans le processus. Et donc, je ne sais pas, il y a une vraie conviction de ce qu'est la culture et de ce qu'elle doit apporter.
Et du côté des communautés de communes, qu'est-ce qui peut les amener à se pousser sur l'engagement ?
Alors, c'est déjà. Enfin, pour nous, c'est une super aubaine parce qu'on n'a pas, à moins de 1h30 de route de salle de spectacle. Hein. On est quand même en moyenne montagne.
On parle d'éloignement géographique, c'est ça.
Dans le parc naturel des Monts d'Ardèche, on est quand même, c'est assez enclavé. Donc, c'est une vraie aubaine pour nous d'avoir de la décentralisation de spectacle. Et c'est aussi pour nous, dans l'idée d'une équité territoriale pour tous les habitants, de se dire qu'on peut proposer la même chose aux habitants de Valence et aux habitants de Saint-Martin-de-Valamas. Et c'est aussi pouvoir faire accéder à des écritures contemporaines, de textes contemporains. Et du coup, aussi derrière, de sensibiliser à des thématiques hyper actuelles, en fait, aussi, de pouvoir aborder des sujets de société via des spectacles dans notre saison.
Donc, Anne Loncle. Oui. Tu es habitante de Vinsobre, oui. Et tu es spectatrice fidèle de la comédie itinérante.
Oui, oui, j'habite à Vinsobre et je suis spectatrice fidèle. Enfin, c'est-à-dire que vous m'avez appelée il y a 2 jours pour me demander de témoigner et vous avez du bol. Parce que imaginez que vous soyez tombée sur une spectatrice ronchonne, parce qu'il y en a eu. Il y en a, ouais, c'est vachement tôt, 20h. Et puis, c'est quoi ça va être des prises de tête. Non, pas du tout. Vous avez de la chance parce que moi, je suis une spectatrice fidèle et j'ai été conquise.
Qui nous
tout
arrive
de
quand même d'une commune qui est à 9 km au sud-ouest de Nyons.
Et 25 ans. Je crois qu'on a fait partie des premiers et je me souviens du premier spectacle. Et il y a des choses qui marquent. On a vu des choses magnifiques, on a vu des choses qui nous ont moins plu. Parce qu'il y a aussi des spectacles qui n'ont pas plu, mais l'intérêt, c'est de voir beaucoup de choses.
D'avoir de la diversité.
Et que chacun trouve quelque chose. Et puis, de toute façon, la qualité professionnelle, elle était toujours là. Donc... Alors, à Nyons, vous parliez de Nyons, il y a une salle de spectacle. Mais à Vinsobres, à Châteauneuf-de-Bordette, à Molan-sur-Ouvèze, à Valory, il y a des salles, des fêtes. Voilà, un peu dans le même esprit que celle que vous décriviez tout à l'heure. Et moi, je donne une mention spéciale à Marco et son équipe, parce qu'ils transforment à chaque fois ces lieux assez improbables en salles de spectacle, ce qui surprend aussi les spectateurs, donc qui leur donne aussi une petite envie supplémentaire de venir découvrir. Et j'irai même plus loin, c'est que, à force de découvrir des spectacles, des formes nouvelles aussi. Alors, il ne faut pas croire à Vinsobres, il y a quand même d'autres spectacles. On n'est pas complètement perdu.
Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé ma question
dans les fins fonds de la campagne. Mais ça a donné des idées, parce que du coup, ben, on est venu à la comédie, on est venu voir des spectacles, on a participé à des stages, on a participé à des trips monumentaux, on a fait Klagenfurt, on a fait Venise. Donc au travers de différents contacts, on a découvert des belles choses et on a fait de belles rencontres.
Oui, c'est ça. Tu parlais justement du fait qu'il y a déjà du théâtre à Vinsobres. Alors, ma question, je me tourne à nouveau vers vous, donc Jean-Jacques Bruschini.
N'importe.
Donc, vous êtes maire de Huppy. Et donc, Charlotte Rose et Garcia, chargée de mission culture à la communauté de communes Valérieux. Comment on se fait aussi le travail avec les associations culturelles locales, les compagnies de théâtre locales peut-être aussi? Comment ça s'articule?
Alors nous, on reste très modestes sur ce plan-là, mais par contre, ce que on a pu faire avec la régie, c'est qu'on a pu créer notre propre programme. Et donc, on a tissé d'autres partenariats, puisqu'on a travaillé avec le Cré Jazz Vocal. On travaille actuellement aussi avec le Train Théâtre, qui a programmé 3 spectacles, dont un spectacle collectif avec la population. Voilà, donc on essaie d'alimenter, notamment, je reviens à Isabelle, qui est comédienne, donc qui a beaucoup de cordes à son arc et qui connaît beaucoup de compagnies. Donc on a un vrai programme de la saison 2026 déjà qui est fait.
Nous, on a également une saison culturelle itinérante à l'année, voilà, avec à peu près 3 spectacles par mois, et aussi avec la volonté de proposer des choses aux habitants en dehors des périodes touristiques de forte affluence avec la Dolce Via, etc. Et donc on a aussi d'autres partenaires, le théâtre de Privas avec les Nouvelles Envolées, on a quelque part le Centre National des Arts de la Rue, la SMAC 07, on a beaucoup de partenaires et on a une saison assez dense. La communauté de communes Valérieux, elle mise beaucoup sur la culture pour être attractive et qu'il y ait des installations d'habitants.
Et oui, c'est aussi une des façons de rendre plus attractif un territoire. Anne, ça vous apporte quoi en tant que spectatrice aussi de voir du théâtre spécifiquement dans des lieux qui ne sont pas dédiés à ça habituellement?
Moi, je pense que je pourrais le voir partout, le théâtre. Donc, on a fait l'expérience en appartement également. Donc, c'est aussi une expérience très proche avec très peu de public. On reçoit à Vinsobres dans le cadre de Contes et Rencontres qui fait maintenant partie des rencontres assez importantes au niveau du conte, dans des salles qui sont effectivement pas dédiées à ça, mais ça, je sais pas, ça n'a pas tellement d'importance. On est là et quelqu'un nous raconte une histoire, danse, fait de la musique. L'idée, c'est de nous transporter. Alors après, le décor, on l'oublie complètement.
Vous êtes désormais aussi présidente de l'Abeille Vinsobraise.
Alors pas du tout. Je vous arrête parce qu'elle est là et elle va m'assommer.
Non,
non, non. tout cela, alors j'en dis deux mots parce que j'en fais pas partie, tout cela...
L'Abbaye Vincent-Bresse qui est une association culturelle locale qui laïque, compte parmi les laïque, partenaires
tout à fait,
de la comédie itinérante.
De la comédie itinérante et qui organise par ailleurs d'autres manifestations tout au long de l'année, qui a son agenda particulier. Mais c'est une association, j'espère que vous aurez l'occasion d'interviewer un de ses membres parce qu'ils sont tous là, donc je me méfie. On va pas dire des bêtises.
En tout cas, oui, c'est assez important de le dire aussi que le dispositif de la comédie itinérante se construit aussi énormément avec les associations culturelles locales comme l'Abbaye Vincent-Bresse.
C'est très important parce que tout simplement, même au niveau diffusion de l'information, qu'est-ce qui va le plus être efficace au niveau du remplissage de la salle? C'est le bouche à oreille, c'est nos réseaux particuliers. En plus, bien sûr, c'est des affiches et les journaux locaux. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, de plus en plus, on se connaît entre communes, on se connaît presque entre spectateurs. Les jauges sont limitées. J'ai écouté que vous en parliez tout à l'heure, on n'y peut rien. Donc, on réserve très très tôt.
Merci. On est obligé. Merci Charlotte Rosé-Garça, donc chargée de mission culture à la communauté de communes de Valérieux. Merci à Jean-Jacques Bruchini, maire de Huppy, et merci à Anne Loncle, habitante de Vinsobres. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais restez branchés parce que nous poursuivons à la Comédie de Valence avec la retransmission en direct des lectures des studios d'écriture nomade en Drôme et en Ardèche.
Au rêve de Penda Diouf et Louise Belmas.
Lundi 19 novembre 1938. La cloche sonne. L'institutrice attend que ses élèves se mettent en rang pour rejoindre la salle de classe. Elle ne dit rien. Il y a 10 jours, elle n'a rien dit non plus. Ne m'a pas posé de questions lorsque j'ai gratté à la porte de sa maison un sac contenant quelques vêtements chauds à mon épaule. La longueur du voyage se lit dans mes yeux fatigués. Pourtant, en me voyant, elle sourit. Et ce sont les traits de mon père que je reconnais, les faux jumeaux. Je voudrais m'installer ici. Je crois que c'est ce que j'ai dit, mais peut-être n'ai-je rien eu à dire. Elle m'a montré ce qui lui tenait lieu de bureau et deviendrait ma chambre, puis nous avons dîné, en silence. Lundi 19 novembre 1938, la cloche a sonné. C'est mon tour. Je me tiens devant ces 17 élèves, d'âge et de niveaux différents, unis dans une discipline étrangement silencieuse pour des enfants de leur âge. Dans ce petit village au nom qui rappelle son enclave entre deux ruisseaux, je suis bien loin du temps et du lieu de mon enfance. Ils et elles croisent les bras, attendant de répondre à l'appel de leur nom. Jusqu'au moment des présentations, et c'est le mien que l'institutrice prononce. Ce nom qui, chaque fois qu'il est proféré, me dissocie de moi-même. Ce nom qui est devenu le mien parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on n'est pas à l'abri, nous. Parce que le sous-préfet était un ami de ton père, il nous doit bien ça. Ce nom un peu plus, et surtout beaucoup moins. Ce nom qui ne résonne plus avec ceux de certains de ces enfants qui se tiennent devant moi et attendent ce que la nouvelle maîtresse a à leur dire.
J'avance sur cette terre comme un nourrisson désorienté qui ouvre les yeux pour la première fois sur un monde nouveau. Bouleversé par tous les bruits alentours que je ne connais pas. Les yeux grands ouverts, écarquillés et pourtant aveugles dans la nuit noire. Ma bouche sidérée se tait. Il n'a pas plu depuis longtemps et la terre sèche semble se fissurer sous nos pas, s'éparpillant en des milliers de particules de poussière. Les langues ont besoin de salive pour parler, raconter, crier. Mais la bouche est sèche et les lèvres gercées. Notre colonie se tait. À tâtons. J'avance à tâtons. J'essaie de calquer le rythme de mes pensées à l'allure de mon pas. Lent, mais décidé. Qui sait où la nuit va nous mener ? Le soleil pourrait décider de ne plus se lever. J'ai l'impression d'être parti depuis si longtemps que mon île ne me reconnaîtrait plus. Je reviendrai étranger après 20 années d'exil dans cet autre pays qui s'appelle aussi France. Certaines odeurs logent désormais dans un espace inaccessible à ma mémoire et s'y tapissent dans l'espoir d'être un jour réactivé par leur réalité. J'ai perdu la langue. Comment peut-on perdre sa propre langue ? N'est-ce pas déjà se perdre à soi-même ?
J'ai laissé les nuits décider entre elles laquelle serait celle de mon départ. Je crains les au revoir, comme de trahir une promesse. Alors, quand le moment est arrivé, je me suis éveillée et je suis partie. Le cœur est le bagage léger, comme on dit dans les chansons. Car si rien ne pèse ni sur mon dos ni sur mon âme, c'est que ce bagage en est une. Chanson. Je pars. Je navigue à vue en prenant soin de me tenir éloignée du bord. J'évite les balises. Et quand je doute, je demande aux arbres. Je pars. Mes pas se désolidarisent du reste de mon corps. Ils me mènent à un rythme encore régulier pendant que mes pensées s'autonomisent elles aussi. Nous nous accompagnons les uns les autres. Nous marchons côte à côte. Mes pas, mes pensées et moi. Je n'ai dormi que quelques heures. Pourtant, chacun de mes sens s'ébroue comme au sortir d'une trop longue nuit. Je sens, je ressens, je re-ressens. Je pars. Je ne crains pas le cri des arbres, ni ceux des animaux imaginaires. Je n'ai pas peur du noir. Je sens, posé sur mon dos, le regard des arbres. Je sors de moi et je me vois de dos comme ils me voient, toute petite à leurs pieds, ne sachant plus en mettre un devant l'autre sans trébucher. Les arbres parlent fort. Ils parlent entre eux. Je ne suis plus seule. Je deviens ces enfants que j'ai accompagnés ces dernières années à intervalles réguliers, se cacher ici, au creux des arbres. Ce sont eux qui maintenant m'accompagnent, me donnent la main et m'invitent à fredonner la chanson qu'ils m'ont apprise. Celle qui, toutes les fois qu'ils ont dû se cacher, est venue les libérer. Cette mélodie inventée pour faire résonner dans les sous-bois la bonne nouvelle. Le danger est éloigné, on peut sortir de sa cachette et redevenir des enfants. Je chante, et aussitôt, la nuit devient jour. Soudain, la forêt se tait. Elle sait garder les secrets.
Parfois, nous faisons une pause car l'épuisement lié à la marche nocturne et à toutes celles qui précèdent est total. Tu dois connaître ça aussi. Le repos est un mot qui a disparu de notre vocabulaire, de notre quotidien. Je m'assieds sur la terre et je la sens respirer. Elle exhale un souffle chaud du soufre comme un volcan prêt à dégueuler sur le monde. J'entends sa colère sous les pulsations de son corps alangui. Colère légitime face aux balafres béantes et aux corps meurtris. La terre est imbibée de sueur et de sang. Quel goût auront ces fruits ? Je ferme les yeux rapidement, 5 minutes à peine. J'ai l'impression de m'assoupir, que les rêves sont au bord, prêts à se dévoiler sous la voûte crânienne. Quelques images de mon île et de tous ceux qui me sont chers. Ils sont si loin et je les convoque par ma pensée. La maison familiale, la cour, ma mère. Je marche sur ces sentiers où certainement aucun de mes ancêtres n'a foulé le sol caillouteux et je pense à tous ces chemins que j'ai dû traverser depuis mon départ. Je pense aux bateaux et à ces longs voyages sur l'océan. Mon peuple a l'habitude du bateau. Le corps oppressé et ballotté dans la cale du navire. Couché tête bêche dans les négriers. Cela fait déjà longtemps qu'on nous a arrachés. Déportés. Sélectionnés, violés, tuer.
Il est tôt. Le soleil est encore en train de s'étirer de sa longue nuit et peine à transpercer le plafond feuillu. Cela fait 3 nuits qu'elle a quitté ce petit village, perché sur le plateau où l'Ardèche rejoint la Haute-Loire. En altitude, les frontières sont poreuses. Elle a suivi, sans l'allonger, la voie de chemin de fer jusqu'à s'approcher du chemin des Dragonnades. Elle a marché en dehors des sentiers. Elle s'est éloignée du trajet le plus court pour saluer tous les saints patrons de son périple. Julien, Martin, Jean, Christol, Michel. À la voulte, elle a retrouvé ceux qui devaient l'aider à traverser le Rhône, avant de plonger au plus vite dans les forêts drômoises. Elle approche du Vercors par le sud. Elle y est presque. Mais tant qu'elle n'y est pas totalement, elle n'y est pas du tout. Cet instant est peut-être un sursis, peut-être un suspens. Depuis 3 jours, elle marche de nuit et se cache la journée. Mais cette nuit-là, c'est immobile qu'elle a parcouru l'histoire. Et ce matin, elle doit reprendre le chemin prosaïque d'un pied qui se pose sur le sol, puis l'autre, et ainsi de suite, pour l'amener physiquement là où elle doit se rendre. Ce matin, son corps doit rattraper son esprit et ne peut attendre que la nuit revienne. Le trajet qui s'annonce, celui qui suit ses mots, n'est pas encore foulé. À cette heure, il n'existe pas pour elle. Elle, c'est moi, Madeleine S. Et c'est ici que nous sommes, au matin qui suit cette très longue nuit. La nuit de ma rencontre avec Félicien Gontran, dans une forêt qui confine au sommet du Vercors.
C'était Aura des Pâquerettes et les 25 ans de la comédie itinérante à Valence, dans la Drôme, par Radio BLV.
Vous venez d'écouter Aura des Pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la Fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des Pâquerettes.